Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, le podcast officiel du site Les Cahiers du Catch. Ici, toutes les semaines, on résume et on analyse l'émission phare de la WWE Monday Night Raw. Je suis Ringside et pour m'accompagner dans ce 61e épisode, l'incroyable Hank. Comment vas-tu, Hank?
Salut tout le monde, je viens de me rendre compte dans mes efforts de réalisation que du coup Ringside est en train de voir mon autre webcam. Donc je suis en train de vous parler à vous spectateurs et Ringside est juste là une nouvelle fois, hein, un talent de réalisation que le monde nous envie. Mais je suis très content d'être là.
Magie de la réalisation, magie du monde moderne. Alors, Catch Up, votre podcast qui vous parle de la WWE, qui parle catch. Quel est le programme de ce soir, vous allez me demander? Eh bien, Brock Lesnar vient nous faire un coucou. La NBA s'invite à Miss TV. Goldust et R-Truth règlent leur compte. Titus O'Neil prend le contrôle des Cruisers. Picasse vient s'excuser. Et on va déterminer une aspirante numéro 1 pour le titre féminin d'Euro dans un gauntlet match. Mm-hmm. Du beau monde à Los Angeles pour ce 26 juin. Et c'est le beau Roman Reigns qui démarre le show. Roman Reigns, le visage fermé, qui débarque au ring. On entend la foule nous chanter des chants « We want Strowman », hein, parce que je vous rappelle que la semaine dernière, Roman Reigns s'est fait casser la gueule par Braun Strowman au sortir d'un match avec Samoa Joe. Donc il nous refait un peu le coup du grand silencieux. Il nous rappelle que Samoa Joe a réussi à lui porter le coquina clutch la semaine dernière grâce à l'intervention de Braun Strowman, ou à cause plutôt de l'intervention de Braun Strowman. Et il accepte le challenge du gros Braun, donc pour Great Balls of Fire, un match de l'ambulance. Il explique qu'il va le foutre dans l'ambulance et l'envoyer en enfer, rien que ça. Et là, une ambulance arrive avec la sirène qui retentit, une sirène à gogo. Alors, elle arrive juste sous le titantron. Roman Reigns est interloqué, il décide d'aller inspecter l'ambulance. Il ouvre les portes, mais elle semble vide, alors il reste un petit peu perplexe devant cette ambulance vide. Et là, boum, stupeur dans le public, Braun Strowman arrive, il attaque Roman Reigns dans le dos, il l'assomme, il l'envoie sur les barricades, il le reprend, il l'envoie valdaguer sur la plateforme en dessous du titantron. Il va le rechercher, Roman Reigns essaye de se défendre avec un Superman Punch, mais il est contré. Strowman l'attrape et il l'envoie valdinguer en contrebas, percuter l'ambulance et tomber au sol, rebondir un peu dans tous les sens. Là, il redescend, il l'attrape, il le chope, il le fout dans l'ambulance. Voilà, un petit teaser du match de Great Balls of Fire. Ça risque d'être assez rapide si ça se passe de la même manière que ce soir. Donc, une intro beaucoup plus courte qu'à l'accoutumée. Mm-hmm. Qu'est-ce que t'en as pensé, mon bon Hank?
Qu'est-ce qu'ils ont avec leurs intros courtes, là? C'est la révolution? C'est la révolution de la WWE.
Mais ça la donne.
Mais oui, bah non, mais c'était sympathique, c'était très téléphoné. Hein. Enfin, c'est-à-dire qui disait avec la stupeur du public. Bon, c'est quand même le truc le plus téléphoné du monde. L'ambulance qui arrive et Roman qui fait. Je suis méfiant et là je vais arriver vers l'ambulance et je vais ouvrir les portes et comme par hasard Strowman il est juste à côté. Après je me suis dit ouais, du coup ça veut dire que genre Strowman bah c'était le mec qui conduisait l'ambulance et même pas parce que du coup la séquence elle se finit d'une façon totalement débile où Strowman tape sur l'ambulance et l'ambulance s'en va. Du coup Roman Reigns il est reparti faire un petit tour en ambulance, un tour gratuit.
Visiblement, Strowman a fait pote avec les gens des ambulances. Il y a toujours une ambulance avec lui.
Si vous m'aidez pas, je détruis encore une ambulance.
C'est ça.
Donc, ouais, il n'y a pas grand-chose à dire. C'était sympathique. C'était une bonne séquence. Et puis, c'est le contraire de ce qu'ils avaient fait au début de la rivalité où, pour le coup, ils nous sapaient un peu le moral parce qu'à chaque fois qu'il y avait un affrontement Reigns-Strowman, c'était toujours Reigns qui prenait l'avantage dans ce genre de situation-là. Hein, ils se finissaient toujours debout et Strowman s'en allait ou un truc comme ça. Donc là, pour le coup, c'est Strowman qui est montré dominant. avec le fameux booking inversé qu'on connaît, on aura encore une victoire de Reigns. Pour le coup, autant la séquence au début, je me suis dit, bon, ça va pas être affolant niveau action, tout ça, mais quand même, le moment où il le balance contre l'ambulance, là, c'était. Il morfle bien, Reigns. Enfin, bon, c'est un peu son. Mm. C'est un peu son truc.
C'est ça, un gros bump, là. Il donne de sa personne, ouais. Non, bah, c'est plus court, c'est plus efficace, et puis, puis voilà, Strowman qui reste costaud, voilà, simple. On s'attendait à ce qu'allait se passer, mais c'est, comme c'est bien fait. Ouais. Et on va pas cracher dessus, hein. Ça nous change, hein, des sempiternelles entrées où ça blablate pendant 20 minutes, hein. Ouais. On va pas se plaindre. Alors la suite, c'est Ilias Sanson, le drifter, qui est dans le ring, mais cette fois-ci il est pas seul. Il est accompagné de Cesaro et Sheamus. C'est un trio. Ils vont se lancer dans une petite chanson, mais il est coupé assez rapidement par l'arrivée des Hardy Boys, la musique des Hardy Boys, hein, qui coupe le début de Ritournelle d'Ilias Sanson. Les Hardy Boys sont suivis de Finn Balor. On aura un match 3 contre 3 avec l'acteur américain Josh Duhamel au commentaire.
Oh putain.
Il vient faire la pub pour Transformers. Donc après une petite période où les gentils ont l'avantage, on va isoler Finn Balor du côté des méchants. Il se fait bien taper dessus par tout le monde jusqu'à ce que Jeff rentre pour le hot tag. Après un crossbody à l'extérieur, Jeff est parasité par le drifter lors de sa montée dans le ring et cueilli par un violent running knee de Sheamus. Jeff est malmené par les Européens, mais après un twist of fate, le hot tag est fait avec Matt. Side effect sur Sanson, mais les champions filouent. Sheamus envoie Matt dans le poteau, combo sur Matt toujours, sauvé par Finn Balor. Corner kick sur Sanson, suicide dive, sling blade, shotgun drop kick, tout l'arsenal de Finn Balor dans la phase des méchants. Les Hardy s'occupent de Sheamus, puis de Sanson à l'extérieur du ring, et Balor porte le coup de grâce sur Cesaro. Un match assez intense, hein, qui a duré quand même un bon moment. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de ce passage-là chez les tag teams mélangés avec l'intrigue de Finn Balor et du Drifter?
Coup de gras. Ouais, c'était un match sympathique. Je dirais que moi, c'est vraiment l'arrivée de Balor qui m'a vraiment réveillé dans ce match, parce que sinon c'était, je sais pas, j'arrive pas à me passionner. En fait, c'est pas que c'est pas bon, mais c'est que j'arrive pas trop à me passionner les Hardy contre Cesaro et Sheamus, parce que j'ai l'impression qu'ils l'ont relancé cette rivalité. Il y a des semaines où il y a des, enfin, je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu bizarrement construite, et limite les Hardy, peut-être ils auraient dû garder leur titre plus longtemps, et du coup qu'ils fassent du coup une espèce d'histoire inversée où finalement ceux qui se battent pendant des semaines et des semaines pour avoir la ceinture, pendant même des mois, ça soit Cesaro et Sheamus, et qu'ils y arrivent à la fin. Bon, alors ça serait un peu bizarre, ça serait genre une storyline de babyface portée sur des heels, mais donc voilà, j'ai un peu du mal. Puis bon, les Hardy, on les aime bien dans le ring, mais est-ce que c'est vraiment excitant de se dire, enfin, est-ce qu'on a vraiment envie de les revoir champions alors qu'ils étaient champions il y a quelques semaines? Est-ce qu'on n'aimerait pas voir quelqu'un d'autre? Donc, à part justement s'il y a cette arrivée du gimmick de Broken Hardy, mais ça arrive pas. Donc, par contre, ouais, Balor, même si finalement il fait un peu son cinéma habituel, hein, il y avait rien d'original, mais bon, ça marche toujours. Son sling blade, je balance les deux mecs à l'extérieur du ring, et puis ensuite je regarde le public et je fais, oh mon dieu, c'est le moment. voilà, il prend son élan, et puis il fait son, ça s'appelle comment déjà, je sais plus, son espèce de flip au-dessus de la troisième corde.
Ouais, j'ai appelé ça un suicide dive, ouais, je suis pas sûr que c'est ça, mais
c'est dangereux, corne, quoi. Ouais, mais ouais, c'est dans ce genre là Et particulièrement réussi d'ailleurs, cette fois-ci, ouais. Franchement, la réception était parfaite. En plus, il y a genre bandé et mus juste après, genre. Était bien faire de son coup. Donc voilà, c'était un bon match qui n'a pas fait avancer grand-chose, mais
ouais.
qui était bien à regarder.
Ouais, propre dans le ring, hein, d'un côté comme de l'autre, pour tous ceux qui ont participé. Effectivement, Finn Balor qui est toujours très populaire. Les Hardy aussi, hein, sont toujours très populaires. Après, effectivement, dans le milieu des tag teams, il y a peut-être plus intéressant à faire que de rester sur cette rivalité-là entre Sheamus et Cesaro et les Hardy. Surtout que, voilà, sur le papier, quand on nous dit encore les Hardy contre Sheamus et Cesaro, on l'a déjà vu et revu. Hein, c'est un petit peu.
Ouais, après, les Hardy, ça vend des tickets, quoi.
Moi, ouais, carrément.
Donc,
c'est sûrement ça, la team la plus populaire du roster. Donc voilà, hein, c'est obligé qu'ils restent un petit peu en haut de l'affiche, hein, et qui monopolisent un peu les tag team. Mais voilà, c'est sûr qu'au moins on a eu un joli match, si ça n'a pas fait avancer grand chose.
Et puis Jeff Hardy se sacrifie toujours autant. Hein. Là, ouais. Il a refait son. Mince. Ah, j'ai plus le nom. C'était sa Swanton Bomb? Je crois.
Le Whisper in the Wind.
Ouais, non, le Whisper. Non, ouais, c'était Whisper in the Wind, je crois. Mais voilà, c'est le gars, il risque sa vie dans tous les matchs.
Ah bah ça c'est Jeff Hardy, hein. Il a construit sa carrière là-dessus, hein.
Peu importe.
Peu importe du suicide.
Peu importe que ça soit un weekly ou quoi que ce soit, il va toujours faire ses cabrioles.
Se ménage pas. Ouais, voilà, bon bah on en verra plus peut-être la semaine prochaine ou à Great Balls of Fire. La suite des opérations, on tape chez les vétérans, même si les Hardy c'est déjà des vétérans, mais là on a vraiment les vieilles branches, les vieilles canailles, hein, de Raw. Goldust en promo, sa petite promo vidéo habituelle où il fait des références au cinéma, il explique qu'il est en train de tourner son nouveau chef-d'œuvre.
Donc finalement, Goldust, c'est un peu le Eddie Mitchell des vieilles canailles, quoi. C'est le passionné de cinéma.
La dernière séance. c'est sûrement la dernière séance d'ailleurs pour Goldust. Et c'est ce soir qu'on va régler ses comptes, puisque ça va s'affronter entre Goldust et R-Truth. Donc Goldust débarque au ring accompagné d'un caméraman vêtu tout de doré vêtu. Donc qui le suit comme ça avec sa caméra, il monte dans le ring avec la caméra. R-Truth arrive, il est pas content, il chante pas, il est plutôt vénère. Donc ça s'engueule par rapport à la position du caméraman qui reste dans le ring, et du coup Goldust en profite pour placer un cheap shot sur R-Truth, justement après avoir utilisé le caméraman comme bouclier humain. Du coup, le match ne commencera jamais, ça ne sonnera pas au niveau du début du match. Truth est rapidement knockout et le match se termine là-dessus, c'est-à-dire R-Truth recroquevillé dans le coin du ring, complètement sonné, et Goldust légèrement triomphant. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur ce segment-là qui fait un petit peu avancer la mayonnaise entre les deux?
Non, pas grand chose. Moi, j'ai déjà dit les semaines dernières que ça m'intéressait pas des masses. Par contre, il y a ton image qui se fige. Je sais pas si tu m'entends toujours là.
Ouais.
Mais, tu m'entends
spécial,
toujours.
Hein.
Il y a ton image qui se fige sur la vidéo. Mais bon, c'est pas très grave. Tant qu'on t'entend, hein.
Du moment qu'on m'entend, c'est voilà. Ça l'important. Parce que j'ai quand même une sale gueule.
Oh, on a tous une sale gueule. C'est un peu, ouais. C'est un peu le gimmick. De catch-up. Enfin, de catch-up pro, bien sûr, hein, parce que les gens très beaux et propres au supplément. Si vous voulez voir un podcast PG. et donc voilà, rien à dire. Ça sera sûrement en pré-show des grosses boules. Et sûrement que je le regarderai pas. Mais c'est. Peut-être, je ne sais pas, si j'ai du temps à perdre.
Ouais, tout ce temps passé pour un match qui n'aura pas lieu, c'est quand même un peu dommage. Ouais, on attend quand même un petit peu plus. Hein. C'est sympa de leur donner du temps d'antenne, mais il faudrait quand même qu'ils nous fassent un match correct, les deux vieux roublards, là. Hein. Allez, on avance un petit peu. Charlie Caruso reçoit Paul Heyman.
Ouais.
Elle est en train de l'interviewer quand Joe débarque, elle a un psychopathe. Il vient, il enlace un petit peu au niveau du cou Paul Heyman, là. fait mine de lui refaire son coquina clutch, mais il le rassure, il lui parle tout bas, il lui dit non, t'inquiète pas, ce soir c'est pas pour toi, le coquina clutch c'est réservé à Lesnar, hein, parce que Lesnar sera de la partie ce soir. Voilà, il lui fait un peu flipper, puis il le laisse comme ça un petit peu pour toi. On apprend ensuite que Steph McMahon est reconnue comme une des femmes les plus puissantes dans le monde du sport.
Oh, j'ai tellement eu peur à ce moment, j'ai entendu la musique de Stéphanie. Je me suis dit, merde, elle revient, ça y est.
Ouais. Non, qu'elle nous laisse un petit peu tranquille. Hein. On peut encore tenir quelques semaines
et
sans
la
voir.
Et la séquence de jeu était excellente, mais on en reparlera plus tard.
Ouais, on fera un petit bilan là-dessus. Hein. C'est un peu le fil rouge de l'émission. On apprend qu'on aura donc le Gauntlet Match pour déterminer l'aspirante numéro 1. Et donc, il y a un tirage au sort où elles ont une petite grille qu'elles font tourner, où elles sortent des boules, un peu à la manière du Royal Rumble.
Des grosses boules.
Hein. Il y a beaucoup de références aux boules, hein, étant donné qu'il y a le pay-per-view qui arrive, Great Balls of Fire.
Ça, c'est l'humour de Vince. Hein, ça, c'est...
C'est ça. Et ensuite, on arrive à Miss TV. Donc, un Miss TV assez spécial, puisque on va avoir droit à quelques stars de la NBA. Mise arrive au ring avec Maryse qui fait un petit peu la gueule parce qu'elle veut pas lui faire de bisous, mais il nous rassure, ils sont happy, hein, ils sont heureux, il y a pas de souci, même si Maryse boude, il y a pas de souci. Là-dessus, voilà les stars de la NBA qui arrivent, donc Liv Arbol, hein, il s'appelle ce monsieur, hein, qui est apparemment assez connu dans le milieu du basket, hein, qui a un trash talker assez connu, et il vient avec sa fille LaMelo Ball, et un peu après il fait venir son fils Lonzo qui débarque en schlappe à l'allemande là, avec des chaussettes et des schlappes, mais apparemment c'est intégré, c'est un truc de mode. Ils ont leur propre ligne de fringues apparemment, hein, ces gens là ouais. Donc ils arrivent au ring, ça discute avec le Miz, donc le Miz nous explique que tout ce qu'a dit Livar au temps de sa carrière s'est réalisé, hein, son fils va intégrer les Los Angeles Lakers. Ce soir, on va fêter le partenariat Livar Ball et le Miz. Mais en fait, il y a un malentendu. Livar, qui est surexcité, hein, visiblement il est sous coke, hein, le monsieur, il explique que non, il n'y a pas de partenariat avec le Miz, ça ne se passe pas comme ça. Alors la tension monte d'un côté comme de l'autre, ça se menace, ça tombe la veste. Il y a un mot un peu ordurier qui est sorti par la fille ou le fils de Livar. On va en venir aux mains. Donc Livar tombe le t-shirt même.
Et il dit, le Miz, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire million zippers.
Ouais. Il a pas mal de phrases.
De trois espèces de vannes à la con.
Voilà, donc ça va se battre. Mais il y a la musique d'Ambrose qui retentit. Ambrose débarque. Ouais. Il dit rapidement qu'en gros, il a des grosses couilles et qu'il aime les t-shirts gratuits parce qu'il porte un t-shirt de Livar. Visiblement, le partenariat s'est fait avec Ambrose et tout ça va terminer sur un déboucher plutôt sur un match 3 contre 3. Rhino et Heath Slater, les anciens champions de SmackDown, associés à Ambrose contre The Miz et son mistourage, comme on dit, Curtis Axel et Bo Dallas. Donc le match, donc ils sont assez surclassés par Rhino, Axel, Bo Dallas et le Miz, et Ambrose au début du match, Rhino et Ambrose qui viennent l'un derrière l'autre, hein, pour faire le match. À force de filouterie, les méchants finissent par isoler Slater, qui au bout d'un moment réussit à faire le tag pour Rhino. C'est la confusion et un cheap shot d'Axel permet la victoire des méchants sur un roll-up exécuté par Bo Dallas sur ce bon vieux Rhino. Victoire donc des méchants, un segment complètement bizarre, assez hallucinant, avec une star de la NBA en roue libre. Est-ce que ça t'a plu tout ça, ou est-ce que t'es définitivement déconcerté?
On va saluer notre cher Giscal qui était tout excité de cette séquence. Mais c'était pas aussi pourri, voire même c'était vraiment plutôt drôle par rapport à ce qu'on a généralement quand on a des invités qui jouent généralement très très mal. Lui, comment il s'appelait déjà le père ?
Livar.
Livar. Du coup, je pense pas que je pense pas que c'est un mec connu. En fait, soi-disant, il est connu seulement parce que il a toujours été invité avec son fils, parce que son fils a, je sais pas, il doit avoir 16 ans ou 17 ans ou un truc comme ça. Donc du coup, il a toujours été invité sur les plateaux télé avec son fils. Et apparemment, c'était genre une méga grande gueule. Et il a fait un peu son nom, mais je pense pas qu'il a vraiment un passé dans le basket. Mais voilà, le gars sur le ring, t'as l'impression qu'il peut te sortir une promo. D'ailleurs, il devait y avoir un mix dans ce qu'il a dit entre sa promo et puis des vannes qui lui sont venues sur le moment. Il était
C'est parti clairement en couille. Hein. Vince McMahon n'était pas du tout content. Ils auraient dû être ringside pendant le match, mais on les a ramenés au vestiaire parce que ils sont un peu trop lâchés pendant le segment. Et je crois qu'il y a un fuck ou un truc comme ça qui a été prononcé par un des deux gosses. Par le plus jeune.
Le N-word, apparemment. Il y a eu le nigger.
D'accord. Ah oui, pas encore pire. Et donc voilà, ça a arraché les cheveux dans la gorilla position et on les a rapatriés assez rapidement. Je pense qu'on ne les verra plus. Hein. Le VWE, malheureusement, si ça t'a plu.
Non,
je suis désolé.
Non mais c'est le buzz du moment. C'est mieux qu'inviter des stars has-been à la limite. Mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Si, il y avait le Miz qui avait fait le jeu de mots, bah, donc je parlais là dans notre chat Skype VIP de Ketchup, qui lui dit t'as ramené qu'est-ce qui se passe là, tu vas m'embrouiller, t'as ramené tous les balls avec toi, il dit you're gonna unleash all the balls on me. Donc voilà, c'était Il y avait quelques phrases plutôt marrantes. Après, bizarrement, ça m'a étonné aussi que les heels gagnent, mais tant mieux. Parce que c'est pas pour le Miz, mais pour Bo Dallas et Curtis Axel, c'est une bonne nouvelle. J'espère que c'est signe qu'ils vont être un peu plus valorisés auprès du Miz. Hein. Ça serait un peu la logique. Il faut pas... On va pas les mettre avec le Miz pour justement faire l'inverse, c'est-à-dire que eux provoquent des fêtes pour le Miz. Donc là, c'était bien. Et oui, la fin sonne vraiment comme un segment coupé parce que Ambrose est arrivé, il a dit une phrase et on sentait qu'il avait peut-être. Généralement, il a au moins une petite minute à lui. Là, il a eu 30 secondes, il a sorti sa phrase, sa musique a résonné, on a l'impression qu'il était même pas au courant.
Ouais, je pense qu'ils l'ont envoyé à la va-vite pour mettre fin au segment.
Et donc voilà. Donc voilà, moment sympathique. Ça avait rien de. Ça partait en vrille, mais j'ai eu peur qu'il monopolise la parole, là, le père. Mais finalement, le Miz, il a quand même sorti ses quelques phrases. Il avait un petit peu de mal, mais il l'a maîtrisé un peu.
Ouais, gros professionnalisme du Miz hein, sur ce coup-là. Et dans le match, j'ai trouvé qu'effectivement, le Miz, il en faisait beaucoup, alors que c'est censé être ses comparses qui devraient faire le gros du boulot. Mais bon, ils ont gagné au final, donc c'est plutôt pas mal. On va avancer. Alors, dans les coulisses, on voit Paul Heyman qui est en train d'attendre Lesnar au niveau du garage. Retour sur le mystère Enzo. L'agresseur d'Enzo qui n'est plus un mystère hein, puisqu'on sait que c'est Big Cass, hein, il a avoué la semaine dernière, tout ça était une mise en scène. Donc on voit Enzo dans les coulisses, puis il arrive au ring, il ne va pas bien, hein, il n'a pas réussi à parler à Big Cass toute la semaine. Hein, donc là ce soir il avoue, d'accord, j'ai fait des conneries, je suis un peu un connard, mais il s'en fout s'il est ridicule, ils doivent parler ce soir, donc il demande à Big Cass de venir parce qu'il faut absolument qu'il y ait des explications, ça ne peut pas en rester là. Big Cass finit par arriver. Donc là, la réaction de la foule, comme l'explique Enzo, on sait que ça a blessé Cass. Il le sait, qu'au fond de lui, il est triste, Big Cass. Enzo explique qu'il y avait du vrai dans ce qu'a dit Cass la semaine dernière. Mais ils sont frères. Et ils refusent de laisser le lien entre eux se briser. Le voyage n'est pas fini, il faut qu'ils continuent ensemble. Il y a eu Nanny Croche, mais on peut encore sauver le coup.
Et il dit on ne doit pas se séparer avant d'avoir gagné ces ceintures de tag team.
C'est ça, exactement. Ils doivent encore devenir tag team champions. Il a vu tellement de choses dans les yeux de Cass la semaine dernière, quand Cass s'est lâché. Donc puis Cass il reprend, il dit ah, écoute Enzo, décidément t'as jamais su la fermer. Il explique qu'il a jamais eu aussi honte de sa vie la semaine dernière. Et devant tout le monde, il annonce qu'il est désolé, hein, il prend le monde à témoin, le public à témoin, il s'excuse, tend la main à Enzo. On s'embrasse. On fête tout ça jusque devant le Titan Tron, hein, c'est la réconciliation, tout est oublié. On lève les bras au ciel, mais là, l'ultime trahison, corde à linge fatale de Big Cass sur Enzo. Eh oui, tout ça était du flan, Big Cass ne s'excuse pas du tout. Il harangue la foule, vous voulez Enzo, ben il prend Enzo, il le soulève à bout de bras et il le jette sur la rampe comme une merde. Voilà. Cass ensuite viendra menacer Corey Graves. Il explique à Corey Graves qu'il a de la chance d'être sous la protection de Kurt Angle et qu'il se demande d'ailleurs quel genre de dossier a Corey Graves sur le General Manager pour être protégé de la sorte.
Ouais. Ça me rappelle que du coup Corey Graves est celui qui a trouvé la vidéo montrant que Cass a fait semblant en fait d'être attaqué par quelqu'un pendant plusieurs semaines.
C'est ça, la révélation. La preuve vidéo venait de Corey Graves, qui joue toujours un espèce de double jeu, là, hein, avec Kurt Angle, on ne sait pas trop. C'est un peu le fil rouge des dernières semaines. Cette fausse réconciliation entre Enzo et Big Cass, de la Team Soft, ça t'a plu ou t'as trouvé ça longué?
J'ai toujours un sentiment bizarre sur cette séquence, parce qu'en fait, s'ils voulaient réussir à séparer une équipe et à la réconcilier une semaine après en justifiant et avec une bonne promo des deux personnes, des deux mecs, et vraiment un moment qui était finalement assez touchant, quoi, bah c'était parfait, c'était parfaitement fait. Après, ce moment, je m'attendais à... Du coup, on s'attend tous à la trahison dans le ring et moins en haut du Titantron. Du coup, quand ils sont repartis, j'ai fait « Vraiment ?»
C'est ça, pareil.
Et donc, voilà. Faut voir comment ils le jouent après. Hein. Ils peuvent aussi en faire quelque chose de bien dans l'autre sens. Je pense que le truc, ça c'est réussi parce que du coup, contrairement à la semaine dernière, cette semaine, ça annonce vraiment une rivalité entre les deux. Ça annonce quelque chose. Il y a forcément une rivalité entre les deux qui va commencer. Comment ils vont la vendre, ça va être difficile parce que il y a un mec d'1m20 et il y a un mec de 2m. Ça va être compliqué. Est-ce que finalement ils vont juste faire plutôt des alliances avec d'autres personnes? Je vois pas trop. Donc c'est un bon segment qui laisse du coup une impression, genre c'est comme si on nous avait remis dans le droit chemin et juste après hop on nous avait donné un coup. Un coup juste à la fin de la séquence qui fait que on voyait le futur. Du coup, il reparlait de retourner chercher la ceinture. Et du coup, ça leur aurait donné un petit peu un second souffle, quoi, cette séquence-là, parce que les gens aiment Enzo et Cass, mais commençaient quand même à se désintéresser d'eux parce qu'ils ont vraiment eu des rivalités qui n'étaient pas géniales, ou alors ils étaient toujours à deux doigts de la ceinture, mais pas forcément au bon moment, à des moments où, où ils n'étaient pas forcément super inspirés au micro, etc. Donc là, ça aurait été un bon nouveau départ. Finalement, c'est pas un nouveau départ, donc faut voir ce qui, comment ils vont faire ça. C'était bien fait. Ça valait pas Jericho Owens non plus.
Ouais. Ouais, non, clairement, il y a une classe au-dessus.
Mais bon, Jericho Owens, c'est tu vas me dire, non, l'amitié entre Enzo et Cass date de plus longtemps, mais l'amitié entre Enzo et Cass, elle est pas comment c'était pas le thème central de leur feud, etc. Alors que Jericho et Owens, ils en foutaient sur la gueule de tout le monde en permanence. On est les meilleurs amis, tout ça. Donc du coup, et puis au micro, même si j'aime beaucoup Enzo et Cass, Jericho et Owens, c'est 10 classes au-dessus.
C'est ça, c'est surtout ça. Il y a beaucoup plus de talent quand même sur Y2J et Kevin Owens que nos amis de Soft. Alors moi, je suis quand même curieux de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont brisé cette équipe qui avait l'éclair quand même de vendre pas mal de t-shirts et de produits dérivés. Ouais. Maintenant, Enzo, il a l'air quand même assez populaire. Les gens avaient l'air de le soutenir. Et là, ils ont bien marqué le coup pour que les gens se montent contre Big Cass.
Ça va être dur de les rabibocher après ça, parce que c'est la deuxième fois. Quoi.
Pas avant 6 ans, à mon avis. mais ouais, au moins comme ça, c'est parce que la semaine dernière, je suis pas sûr que ça ait fonctionné à 100% ce qu'ils ont fait. Là, vraiment, il y avait une réaction de la foule qui était vraiment assez haineuse en faire Big Cass. Ouais. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont dû marcher quand même sur la réconciliation. Et l'image est assez forte de Big Cass qui soulève Enzo pour le jeter sur la rampe comme ça. Faut vraiment créer de l'animosité bien entre les deux. Et je pense que cette séquence-là, même si elle était un poil prévisible, elle était quand même plutôt bien foutue. Il fallait que Enzo aussi sa séquence où il parle, parce que la semaine dernière il a pas parlé du tout. C'est complémentaire de ce qui s'est fait la semaine dernière et je pense que c'est relativement efficace. Voilà, maintenant faut voir s'ils arrivent à nous sortir un match qui marquera un petit peu son temps. Ouais. Ça c'est pas sûr, hein, vu les deux gogos. Allez, on avance, on va rejoindre l'ami Seth Rollins qui ce soir affronte Kurt Hawkins. Donc forcément une victoire rapide, hein, de Rollins avec son Kingslayer, hein, son coup de genou là, façon Rainmaker. Sa victoire, elle est coupée par une promo vidéo de Bray Wyatt qui nous explique qu'il va sauver Seth Rollins, il va le purifier en tant que dieu. Voilà, t'as quelque chose à dire là-dessus ou on s'en fout? On s'en fout, hein, quand même. Voilà, mettez lunettes de star. Ensuite, on fait un petit tour au bingo avec Dana Brooke et Mickie James qui sortent leur numéro pour le Gauntlet match de ce soir. Brock Lesnar arrive, il descend de sa limousine. Retour au bingo avec Sacha. Et on revient dans le ring avec Paul Heyman. Qui...
la phrase retour au bingo avec Sacha.
Bah ouais, mais elles sortent leurs numéros, on voit pas les numéros, puis elles
et
disent rien.
Et tout de suite, Sacha voilà. Avec la boule complémentaire.
Oui, le 2. Paul Heyman dans le ring, parlons de choses sérieuses.
Oui.
Donc, il nous explique que le cheap shot de la semaine dernière de Samoa Joe, c'était plutôt malin, parce que ça a forcé tout le roster à séparer Joe de Lesnar, hein. Et ça a permis à Joe de placer un second cheap shot, hein, ce coup de pied violent dans la face de Lesnar, qui était retenu par la moitié du roster, hein, parce qu'il y avait une moitié qui retenait Joe et puis une moitié qui retenait Brock. Mais Samoa Joe est quand même un abruti de Samoa, comme il dit, hein, parce que maintenant il est temps d'avoir peur. Il a énervé la bête, la pause pipi elle est finie, c'est le moment là, ce soir, la séquence de ce soir, c'est celle dont on parlera demain, hein, on va pas parler de l'Ivar Ball et de ses frasques, mais bien de ce soir, puisque c'est de ce moment là, puisque c'est Brock Lesnar qui est là, hein. Paul Heyman est venu pour introduire son client, le champion de l'univers Brock Lesnar, qui débarque au ring tout un grand sourire, hein, pour son arrivée au ring, mais il est attaqué par Joe qui arrive par derrière et qui lui porte le coquin à clutch. Lesnar va essayer de se dégager en écrasant Joe contre le mur vidéo, mais Samoa Joe ne lâche pas. Il faudra l'intervention du roster pour écarter Joe de sa proie, hein. Lesnar qui est devenu rouge rubis, là, il est en train d'étouffer. Une séquence violente avec Joe qui tente de tuer, hein, Brock Lesnar. Il est trop violent. La suite de tout ça, ce sera Great Balls of Fire. Qu'est-ce que t'as pensé de cette séquence choc?
Ah, c'était fantastique. C'était. C'est la première fois que, même s'il y a eu cette séquence la semaine dernière, c'est la première fois, je pense, depuis des années, qu'on voit une promo de Lesnar où il se fait maîtriser. Enfin, une promo, c'est pas une promo, mais un segment hors match où il se fait maîtriser, mais. Mais pour le coup, et Lesnar qui a du coup sûrement accepté qu'on lui fasse parce qu'il lui fait un véritable étranglement quoi. Enfin, c'est pas, je pense pas qu'il appuie. Non, mais il appuie pas au maximum. Mais il est rouge comme une tomate à la fin.
Ouais, bah oui. Donc, en tout cas, c'est inspiration. Donc... Hein. Est-ce que tu veux que je te fasse?
Ouais, remarque, tu peux faire ça aussi. Mais je sais pas, enfin en tout cas, j'ai pas pensé genre oh, il est en train de retenir sa respiration sur le moment,
c'était réaliste.
J'ai vraiment pensé genre après si le mec tu sais que ça va durer 30 secondes, 40 secondes, tu peux tenir, ouais. Surtout quand t'es une grosse bestiole comme ça. Mais ouais, donc Lesnar qui au moins accepte dans un segment de se faire maîtriser intégralement, c'est assez incroyable ça va être d'autant plus rageant quand Joe va perdre. Mais au moins c'est inédit, je trouve cette dynamique là. Le fait que le challenger contre Lesnar, ça va pas être une question de genre « Ouais, je suis plus intelligent que toi » ou alors « Oui, j'ai plus d'expérience » ou quoi que ce soit. C'est « Non, en fait, j'ai juste plus de force. Ouais. Je suis juste plus fort que toi. » Bon, après, c'est aussi un traître hein, parce qu'il l'attaque par derrière. Mais,
il est pas con, hein. Mais à la limite, seulement il est costaud, mais en plus il est pas con.
Ouais, voilà. Mais à la limite, moi du moins, j'y pense pas trop dans la séquence parce que tu te dis, même un mec qui attaque par derrière Lesnar, bon, c'est quand même, c'est un géant, il peut se débattre et il peut le balancer par terre normalement rapidement. Et là, non, quoi, pendant quasiment toute la séquence, il se débat un peu, etc. Mais Joe, il le lâche pas et à la fin, au moment où, du coup, la sécu vient choper Joe et il doit s'en aller. Il lui dit I did this to you. C'est ça. C'est
marque le coup.
C'est ça rappelle beaucoup de le genre de rivalité entre guillemets de boxeurs en fait où on sépare la séquence. Ça me faisait penser à ces je sais plus comment on appelle ça, ces interviews organisées avant les matchs de boxeurs où ça se finit toujours par une baston, ils sont toujours séparés et à la fin ils sont toujours en train de se dire des trucs pendant qu'ils sont en train de se faire retirer par la sécu. Et là c'était vraiment bien fait, ça sonnait pas trop téléphoné. Le truc de la sécu a fonctionné. Il y a pas plus.
Ouais.
Contrairement à la semaine dernière où il fallait 20 personnes, là il y avait genre 3 mecs et ça a fonctionné parce que là pour le coup c'était réaliste. T'as pas besoin de plus de 3 mecs pour prendre Samoa Joe. Mais bref. Génial. Mais putain, moi en tout cas je veux le voir quel que soit le résultat. Je veux tellement voir ce match, ça va être. J'espère que ça va pas être décevant, ouais. Mais ça peut pas aller. On peut pas booker ce match dans un seul sens.
Ouais.
C'est pas possible.
Il y a une séquence encore après avec Paul Heyman qui est interviewé par Charlie Caruso et qui justement explique que il explique déjà que Joe c'est un peu la honte des Samoans, blablabla. Mais il explique que Lesnar est dos au mur et que dans ces cas-là, ça, le match de Great Balls of Fire, on a bien compris que ça va pas être un match qui va être justement comme tu dis à sens unique. Ça va être long, ça va être difficile. Mais Lesnar au final, il va emmener Joe visiter Suplex City et quand Joe se réveillera, il dira oh mon Dieu. C'est donc ça, d'affronter la bête.
Goodness
gracious, Great Balls of Fire. Effectivement, moi, je suis hypé comme un fou là pour ce match. Ça va être violent, ça va être du gros truc de main event de poids lourd avec de la technique. Est-ce qu'ils vont pas s'orienter vers un truc façon shoot wrestling? C'est possible aussi, parce que Samoa Joe a les atouts pour jouer sur ce truc-là. On va pas être, je pense, dans un match de gala.
Il a pas peur de saigner, ouais. Il a pas peur de saigner, Joe.
Bon, même si
souvenez-vous d'ailleurs le match d'NXT contre. C'était contre. Ah, c'était non Balor ou Shinsuke? Non, c'était Balor, je crois. Joe a commencé à saigner du nez après un mauvais coup au bout de 2 minutes. Et t'avais des mecs de l'équipe médicale qui étaient là pour qui voulaient absolument arrêter le match. Et toutes les 2 secondes, ils les repoussaient. Bon, finalement, ils ont quand même arrêté le match pendant une petite minute pendant qu'ils se soignaient. Mais voilà, Samoa Joe, il a pas peur de mouiller la chemise.
Ouais. Mais ne l'enterrons pas trop vite, hein, parce que Brock Lesnar, il va pas non plus garder. Je sais que le projet, soi-disant, c'est de garder Lesnar champion jusqu'à WrestleMania, mais ça me paraît un peu long quand même. Il peut très bien être à WrestleMania sans être champion pour affronter Roman Reigns, si c'est toujours le projet. Et puis, il faut bien monter des nouvelles stars, hein, même si Joe, il est un peu vieux, mais voyons, ne l'enterrons pas trop vite. Il est costaud, c'est Samoa Joe. Voilà, une bien belle séquence en tout cas. On avance avec les cruisers, parce qu'il faut bien parler des cruisers. Lince Dorado affronte le roi Neville sous le regard de Akira Tozawa, qui est en costard au bord du ring. Le nouveau membre de la Titus Brand a une place plus que VIP, hein. Il a un joli un fauteuil confortable, des gâteaux, des confiseries, et il peut regarder le match. Alors moi je suis content de voir Lince Dorado, parce que je l'avais vu à Main Event il y a 1 ou 2 semaines. Il avait fait une mauvaise chute sur la tête, je pensais que sa carrière était finie, mais non, il est toujours en activité. Et ce soir, il se fait battre par Neville avec les anneaux de Saturne. Il fait notamment à un moment donné un joli suicide dive, ce Lince Dorado là, qui se termine par une pirouette, là, un topé suicida qui se termine par une pirouette. C'était assez impressionnant. Bon, le match se termine, Tozawa monte dans le ring pour confronter Neville, il tombe la veste, mais Titus débarque. Il explique qu'on ne se bat pas gratuitement, hein. Lui, il a organisé le match pour Great Balls of Fire. Tozawa contre Neville pour le championnat des cruisers. Donc tout ça, finalement, ce sera dans 2 semaines. Ça te passionne, ce Titus qui prend le contrôle des cruisers?
Je veux pas aller jusqu'à passionner, mais
exagérons pas.
Voilà, on a déjà sorti quelques compliments dans l'épisode de la semaine dernière. Donc ça va toujours dans la bonne voie. Et puis Tozawa Neville, très bien. Je veux voir ça, un beau match de 10-15 minutes entre Tozawa Neville. Ça va être bien.
C'est du potentiel.
Est-ce qu'ils vont oser filer la ceinture à Tozawa?
Tozawa, le tombeur de Neville.
Il y a pas 50. Il y a pas 50 mecs crédibles non plus, hein, contre Neville. Tozawa, il a peut-être pas la carrure, mais il a quand même la rapidité. Il a quand même, je pense, des trucs violents. Enfin. Qui du moins apparaissent plutôt violents.
Oui, non, il a le niveau. C'est un catcheur japonais.
Qui pourrait peut-être sortir de sa poche juste pour le pay-per-view. Donc voilà, et puis ça. Est-ce qu'il l'utilise beaucoup? Parce que j'ai l'impression que je ne l'ai pas vu depuis un bail, sa souplesse.
Ah ouais, le German suplex, stab German suplex.
Voilà, ouais, sa souplesse.
Pour une belle manière de terminer le match. Ça.
Qui va à la vitesse de la lumière. Hein, c'est assez incroyable quand il arrive à faire ça. Donc, moi, je suis bien content pour ce match. Et je me dis, je suis pour Tozawa, ouais, parce que. J'aime beaucoup Neville, mais bon, au bout d'un moment, faut se risquer. Voilà, ils sont contents, ils ont Neville, ça marche super bien, etc. Va falloir quand même un petit peu tenter quelqu'un d'autre.
Ouais. Ouais. Mm-hmm. Alors le fait que ce soit réduit à une portion congrue comme ça, les cruisers, il y a plus qu'un match. Est-ce que tu trouves que c'est mieux pour le fonctionnement du show?
Ah
ou
oui.
Tu... Ouais. Hein.
Je pense qu'en fait, ce qu'ils doivent faire la recette maintenant, c'est que. Ok, vous mettez qu'un seul match, mais ce sera pas toujours le champion, mais ce sera toujours quelqu'un qui est en rapport avec le champion. C'est la bonne façon de le faire, parce que du coup, vous mettez... donc du coup, il y a un catcheur qui est hors storyline, il y a un catcheur qui est vaguement en rivalité, ou alors complètement en rivalité avec le champion, et le champion qui, de temps en temps, va être là, va intervenir, ou va... etc. Je trouve que c'est une bonne recette pour l'instant.
Ouais.
C'est plus intéressant que faire genre ce match-là qui intéresse les gens et faire le match avec deux mecs qui ont pas de rival. Ils ont... En plus, généralement, quand t'as un deuxième match, c'est même pas des mecs qui sont vraiment en rivalité, ou alors c'est une rivalité de merde, comme Noam Dar et Rizwan.
Ouais.
Et ça, non, pas Rizwan, c'est Cédric Alexander.
Ah ouais.
Et franchement, on en a rien à battre, gardez ça pour 205 Live. S'il vous plaît.
Exactement. Exactement. Bon, qui reste encore un petit peu, mais qu'on les voie pas trop. Mon Dieu, hein, qu'est-ce qu'ils sont devenus ces cruisers. Mais non, c'est bien.
Non, mais gardez le meilleur. Voilà, gardez le meilleur.
Voilà,
pour
gardez le meilleur de la qualité, pas de la quantité, comme on dit. Mmh. Allez, on s'approche du main event. Un petit tour du côté du bingo. Nia Jax qui sort des coulisses. Elle est interpellée par Alexa Bliss et qui vient un petit peu l'encourager. Hein, elle dit, je suis avec toi, tout ça. Mais Nia Jax, elle s'en fiche. Elle compte bien gagner le match. Il y a une petite confession d'Alexa Bliss qui dit que sa mère se moquait d'elle quand elle a eu son contrat à la WWE. Même sa mère se foutait de sa gueule.
qui croyait complètement. Pas. Complètement faux. Si vous avez regardé sur la chaîne WWE, il y a des vidéos ma fille ou mon fils est à la WWE, un truc comme ça, et c'est des vidéos documentaires sur la famille des superstars, et il y en a un sur Alexa Bliss, et sa mère est genre sa plus grande supportrice depuis le début, et elle a du coup elle a fait comment ils appellent ça, la page entry ou un truc comme ça. Je crois qu'elle a fait la compète de Pom Pom Girl et des machins. Enfin bref, pendant toute sa vie, elle a fait des compétitions. Pendant toute sa vie, sa mère était derrière elle. Donc bon, faut pas avoir vu le documentaire pour.
C'est un gros pipeau, d'accord. Voilà. Moi, ça m'a fait marrer en tout cas cette réflexion. Voilà, Nia Jax explique qu'elle compte bien gagner le match ce soir. Elle va écraser tout le monde. Et c'est d'ailleurs Nia Jax qui commence le match, même si c'est Bayley qui arrive en premier. Le premier affrontement, donc Bayley versus Nia Jax pour ce Gauntlet match. Donc le Gauntlet match, on vous rappelle, il y en a deux qui commencent dans le ring. Celui qui gagne l'affrontement a le droit d'affronter la candidate suivante et ainsi de suite. Alors Bayley, hein, malgré un joli diving elbow sur la nuque de Nia Jax, elle perd quand même le match après une chute du poteau. Hein, elle est montée encore une fois sur le poteau, mais Nia Jax la fait tomber et elle lui porte un Samoan Drop.
Une chute dans le couloir numéro 2.
Chute à l'avant. Donc Bayley éliminée. Mickey James arrive ensuite. Elle est prise à plusieurs reprises dans des prises de l'ours, hein, bear hug. Nia Jax survit à un coup de pied circulaire de Mickey James qui a réussi à s'échapper. Elle contre aussi Nia Jax un tornado DDT, hein, le finish de Mickey James. Et elle finit par exploser Mickey avec un énorme coup de bélier, donc pour le compte de 3. C'est ensuite Dana Brooke qui débarque et qui est laminée en 2 secondes avec une descente de la cuisse. Emma arrive ensuite, elle tient à peu près 4 secondes puisqu'elle est contrée sur un crossbody qui est transformé en Samoan Drop.
Et qu'est-ce qu'ils sont cons avec leur crossbody sur Nia Jax.
Ouais,
ils n'ont pas compris, ça fait 3 ans que tous les gens qui font un crossbody sur Nia Jax, ils sont récupérés dans les mains direct.
C'est ça.
Ils comprennent toujours pas.
Voilà, il faut faire quand même près de 150 kilos pour que Nia Jax ait du mal à vous attraper. Hein,
on veut voir un crossbody de Big Show sur Nia Jax, s'il vous plaît.
Voilà, on va faire ça avant la fin de notre vie. Sasha Banks qui débarque, c'est elle la dernière à participer au Gauntlet Match. Donc ça va s'affronter encore longuement hein, entre Nia Jax et Sasha. Au début, Sasha elle est très très virevoltante, elle saute dans tous les sens, elle fait sa fameuse double descente des genoux. Elle demande à ce qu'on compte Nia Jax à l'extérieur du ring. Mais Nia Jax avec sa puissance réussit à reprendre le dessus. Plusieurs fois elle va prendre Sasha et la jeter à l'extérieur du ring et demander le compte de 10. Et c'est vraiment mal parti pour Sasha jusqu'à ce que Nia Jax, je m'en mêle hein, dans mon histoire, Nia Jax réussit à porter le Samoan Drop sur Sasha qui se laisse tomber quasiment à l'extérieur du ring dans les cordes pour ne pas être comptée. Nia Jax vient la chercher, qu'elle est à bout de force, hein, Nia Jax. Elle se prend un coup de pied dans la face. Mais après, elle réussit à reprendre Sasha sur ses épaules pour torter un Samoan drop. Mm-hmm. Sasha réussit à s'en sortir et elle place un espèce de bank statement modifié sur le dos de Nia Jax en lui prenant les bras en tenaille grâce à ses jambes. Nia Jax ne réussira pas à s'échapper. Elle pliera un genou, le deuxième. Elle finit par s'écrouler, s'affaler. Sasha Banks ne lâche pas. Et Nia Jax est obligée de t'abandonner, elle est obligée de taper. Victoire de Sasha Banks à la surprise générale après un énorme déroulé de Nia Jax qui a pas réussi à trouver d'opposition dans tout le roster, hormis Sasha Banks. Elle a séché, Dana Brooke, elle a séché Emma, mais elle est obligée de s'écrouler face à Sasha Banks. Qu'est-ce que t'as pensé de ce main event, mon bon Hank?
Sasha Banks ressuscité. Oui. En parlant de ressusciter, d'ailleurs, la position de Nia Jax à la fin me fait penser un peu genre la position du Christ. Elle était écartelée comme ça. Alors, il y a plein de choses à dire sur ce match. Déjà, Bayley, c'est fini. C'est comme Capri finalement.
Stand by Bayley.
Bayley, c'est totalement fini. Ça va pour plusieurs mois à mon avis, parce que je comprends pas pourquoi. Enfin, je comprends et je comprends pas pourquoi ils l'ont mis première. Je comprends parce que en premier dans un match comme ça, tu peux pas mettre genre un jobber, enfin quelqu'un qui va forcément se faire battre parce que ça, ouais. Les gens vont s'en foutre. Mais en même temps, ça fait chier de se dire. Il balance Bayley en intro et elle se fait ramasser, quoi. C'est pas comme si elle avait fait un match de au moins dizaine de minutes avant qu'il y ait une deuxième. Là, elle s'est vraiment fait ramasser. Je sais pas combien de temps ça a duré, mais 3-4 minutes.
Après, elle perd sur une chute. L'autre lui crochette le pied. Elle fait une mauvaise chute du haut de la troisième corde. Donc, elle est un petit peu protégée. Mais c'est sûr que le résultat, c'est quand même qu'elle se fait sécher en quelques minutes.
Et puis, ce dont on se souvient, même si ça veut rien dire, l'image du fait que c'est elle qui arrive en premier et qui perd en premier, ça fait très... Enfin, je sais pas.
Bon, après, les autres n'en font pas beaucoup plus. Hein. Le reste du roster se fait sécher assez rapidement. C'est vraiment le gros déroulé de Nia Jax.
Après,
hein.
Le reste du roster, à part Emma, ça me fait chier pour Emma. Je trouve que, enfin, limite ne la mettez pas dans ce match, quoi, Emma. Si c'est,
ouais,
pour,
mais Emma,
si c'est pour juste faire ça.
Je crois que c'est un peu grillé pour elle pour l'instant. Hein, de toute façon.
Mais, c'est vraiment du gâchis. Enfin, bref. Mais le reste, c'est totalement logique qu'elle se fasse ramasser, même si, bon, Mickey James a son passé, etc. Mais on sait bien qu'elle est revenue pour recatcher, dans la storyline, avoir retrouvé un petit peu sa gloire d'antan. Mais bon, on l'imagine pas en championne, on l'imagine pas revenir en championne pour l'instant. Dana Brooke, c'est complètement logique. Et donc, du coup, voilà. Après, donc, si on enlève toute cette partie-là et si on part de Sasha Banks, incroyable. Ce match était juste magnifique, super bien orchestré au niveau des spots. Le fait de... Je me demande même si la personne qui a booké le match n'est pas la même qui a booké Bayley et Nia Jax. Parce que c'est vraiment... Il faut avoir un sacré talent d'écriture pour booker un underdog, mais vraiment, enfin, genre, Sasha Banks qui fait, je sais pas, enfin, je vais dire au pif, elle doit faire 1m60 ou un truc comme ça, contre Nia Jax, enfin, 1m60 et puis une carrure de coton-tige, contre Nia Jax qui doit peser dans les un peu plus de 100, aux alentours de 100, quoi. Donc, et c'était crédible, et c'était... c'était très bien joué. Le selling de Sasha Banks, je l'ai trouvé très bon aussi.
Ah bah, c'est sa spécialité aussi, ça, ouais. Sasha Banks. Là, on a retrouvé la grande Sasha des grands soirs, quoi.
Voilà.
Ça fait plaisir.
Nia Jax, une sacrée endurance. Parce que même si la majorité des matchs étaient des squash, fallait quand même les faire parce qu'elle termine à chaque fois avec des Samoan drop, à chaque fois avec des donc voilà, le final magnifique, c'était un final de pay-per-view quoi, la position finale du match, on se demande qu'est-ce qu'ils peuvent faire de mieux pour un match enfin du coup, ça va être Sasha Banks contre Alexa Bliss, donc ça va être différent. Mais ce que je veux dire, c'est que si on retrouve Nia Jax plus tard en rivalité avec une championne, il va falloir. Et ça va être compliqué parce que du coup, faire des matchs vraiment différents contre quelqu'un de ce gabarit-là, c'est assez complexe. Mais là, ça marchait parfaitement et ça a montré aussi que Nia Jax avait de l'endurance. Ça a montré qu'elle était, qu'elle pouvait être bonne voire très bonne dans le ring pendant plus de 20 minutes donc c'était gagnant-gagnant comme dit Ségolène c'était gagnant pour Nia Jax, c'était gagnant pour Sasha Banks qui pour le coup a regagné je trouve en une soirée tout l'aura qu'elle avait un peu perdu ces derniers temps on a vu quelques fois des fulgurance, enfin quelquefois des bons matchs de sa part, mais depuis que Charlotte est partie, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même.
Non mais voilà.
Donc hâte de voir ça, en espérant que du coup l'alchimie avec Alexa Bliss soit là et que et que du coup ça fasse du grand match.
Exactement. On a envie de voir ce match. De toute façon, il faut que Sasha elle revienne dans le main event, puisque de toute façon, c'est quand même elle la meilleure. On l'avait peut-être oublié, mais voilà, c'est d'accord. Alexa Bliss, elle a du talent, elle sait mener les promos, mais voilà, quand il s'agit de faire un gros match, il vaut mieux que c'est Sasha Banks dans l'histoire.
Ouais, puis on a beau critiquer de temps en temps Sasha Banks, etc. Enfin, souvent, c'est plutôt le personnage que le in-ring, justement. Au niveau ring, Sasha Banks c'est une des plus constantes au niveau qualité et Alexa Bliss c'est pas encore à ce niveau là des moments
loin de là,
et Alexa Bliss Bailey dégueulasse qu'on a eu, enfin il y a eu des moments
ils ont fait des matchs à stipulation, enfin voilà, il y a eu le match du Kendo Stick qui était pas bon, le reste il me semble que le match était pas trop mal quand elle avait perdu la ceinture.
Au niveau technique, des moments on sentait que c'était moyen ou du moins entre les deux ça fonctionnait, j'ai jamais trouvé que c'était vraiment fantastique quoi.
Bah après voilà, s'il faut un gros match avec de l'in-ring et du work rate, il faut vraiment quand même mieux que Sasha Banks soit là. Et puis il n'y a pas de raison que Sasha Banks elle soit pas dans le haut du panier des filles, voilà, qu'elle fasse la promotion pour tout au Five Live, d'accord, on veut bien qu'elle soit en kick-off une fois ou deux, voilà, elle a eu sa période pain noir, maintenant il faut qu'elle revienne sur le devant de la scène. On voit qu'elle est encore extrêmement populaire, elle a gagné encore un Teen Choice Award là, qui est sorti de je sais pas d'où.
Je crois que c'est une nomination, elle a été nominée pour les Teen Choice Awards dans les athlètes de l'année.
D'accord, mais il y a un potentiel de fou derrière, le public est derrière elle, il n'y a pas de raison de la placer en bas du tableau. Moi, je suis assez pressé de la revoir avec la ceinture et puis qu'elle mène tout ça vers de nouveaux horizons. Et puis qu'on ait encore une altercation avec déjà Nia Jax. Je veux voir la vraie match Nia Jax Sasha Banks. Un vrai match, voilà.
Ouais. Et ce qui nous arrange aussi, ce qui nous arrange aussi là-dedans et qui fait peut-être que justement on aime mieux Sasha Banks ces derniers temps, c'est qu'ils ont arrêté leur connerie entre Sasha Banks et Bayley.
Que ça soit
l'amitié ou la fausse tension, ou je sais pas quoi, qu'ils arrêtent avec ça parce que c'était mauvais.
Ouais, elle a été un petit peu parasitée par le booking de merde de Bailey, où il fallait une copine à Bailey apparemment. Voilà, donc tout ça c'est derrière nous. Si on peut avancer vers des gros matchs.
En marche
En marche, en avant. Alors, main event de filles hein, ce soir à Raw. Main event, vous verrez aussi à SmackDown, puisque c'est le deuxième match de l'échelle. Donc, ça sera chroniqué par nos amis du supplément, hein, Giscal et IRM, théoriquement, s'il n'y a pas de changement au niveau du casting.
Ouais.
Les filles à l'honneur cette semaine, parce qu'il y a une série qui sort sur Netflix qui s'appelle Glow. qui parle de catch féminin, qui reprend un petit peu les coulisses d'une émission de catch qui a existé hein, vraiment dans les années 80, qui ouais. paraît-il très très bonne. Alors j'ai pas regardé encore, je peux pas vous donner un avis concret, mais apparemment c'est très très bien. Ouais. C'est fait par les producteurs de Weeds et de Orange is the New Black, donc c'est quand même des séries de qualité. Et apparemment c'est vraiment une très bonne série. Bon, on en parlera peut-être. Voilà.
Et on attend notre chèque de Netflix maintenant.
C'est ça. Pub gratos.
Et tiens, en parlant de pub gratos, du coup, j'ai eu, il y a pas très longtemps, alors j'en ai pour 3 secondes, je vais le prendre.
Anne qui est en train d'aller chercher. Voilà, je suis de retour. Ce qu'il veut vous présenter.
Je suis de retour. Je vous présente pour seulement 99 francs. non, mais donc les auditeurs du podcast, je suis en train de montrer en fait le bouquin NXT qui est sorti il y a pas très longtemps, qui est sorti genre je pense il y a un mois, un truc comme ça.
Ouais.
3 semaines, un mois. Et donc voilà, je vais peut-être faire une vidéo sur la chaîne YouTube pour en parler une fois que je l'aurai lu. Pour l'instant, je suis qu'au début. Mais c'est censé être un peu l'historique d'NXT depuis le FCW jusqu'à la Women's Revolution que Stéphanie adore. Hein. D'ailleurs, on nous l'a dit pendant ce Raw, c'est Stéphanie, la Women's Revolution.
Oui.
C'est elle qui l'a fait. C'est
pas
son
job.
C'est pas du tout NXT, c'est pas du tout les filles à NXT, voilà. c'est Stéphanie.
La Woman Revolution, c'est Stéphanie McMahon, NXT, c'est Triple H.
Voilà
le futur, hein, c'est grâce à eux.
Le futur is now. Au moins, Triple H, voilà. Triple H. Bon, c'est aussi, du peu que j'ai lu pour l'instant du bouquin, c'est aussi un petit peu une ode à Triple H. Mais bon.
Oui, souvent quand ça parle de NXT, ça revient à une ode de Triple H.
Et il y a une préface de Vince McMahon où on sent qu'il est, un peu. Il est vaguement amer, il donne des compliments, mais on sent qu'il n'est pas très passionné.
Il n'a pas regardé l'émission.
On sent qu'il dit c'est magnifique, mon beau-fils a réussi à monter un business incroyable
avec, avec mon argent.
A révolutionné le monde du catch. Et une des premières phrases du bouquin que j'ai adoré aussi, c'était une citation de Triple H qui parle à Vince McMahon en 2010 et qui lui dit « Si on ne fait rien pour le développement des stars », le catch va mourir.
Ok, il a aussi sauvé le catch.
Il a sauvé le catch. Non mais voilà, chacun fait sa part à la WWE pour un monde meilleur. Donc voilà, c'est juste ça. J'en ferai sûrement soit une vidéo à part où j'en parlerai dans le catch-up un épisode où dès que je l'aurai fini.
Alright. Il paraît qu'ils sont fâchés d'ailleurs un petit peu, Triple H et Vince McMahon, justement à cause de l'utilisation des stars d'NXT dans le roster principal. Paraît que Triple H est pas très très content.
Oui, c'est logique. Hein.
Oui, c'est vrai. Hein. Ça me paraît cohérent.
C'est quand même assez évident, malgré quelques réussites. Quand même, mais malgré les quelques réussites, c'est quand même assez évident que la transition entre NXT et WWE, c'est dans 70% des cas une régression au niveau du personnage ou du moins au niveau de l'aura qu'ils ont. Après, il y a plein de raisons. Il y a le type de public qui est pas forcément le même. Il y a des gimmicks qui s'adaptent plus à des petites salles qu'à des arènes. Il y a et puis il y a aussi le booking de merde.
C'est ça. Faut pas l'oublier. Mais bon, ça c'est le sujet d'un débat.
Voilà.
On aura fois.
On va pas se lancer.
Est-ce qu'il est temps de conclure. Voilà. On passe au mot de la fin. Une note. Un top, un flop, c'est pas dans cet ordre-là, mais c'est pas grave. dis-nous tout, Hank.
Et tes lunettes, et dis-nous tout. 3,5, ce sera
3,5.
3,5 pour ce Monday Night Raw du je sais plus quelle date. Donc, le meilleur moment. Je vais mettre. Le double knees ou je sais plus comment ça s'appelle, le saut de Sasha Banks le long du ring sur Nia Jax vers l'extérieur, c'était magnifique. C'était, okay. C'était mon...
Ouais, c'était super bien fait, c'est vrai ça, maintenant que j'y pense. Très beau passage, ouais.
Mon coup de cœur, c'est mon coup de cœur. Le pire moment de ce Monday Night Raw, qu'est-ce que c'était le pire moment? Ce truc de Goldust et Artruth où finalement ils n'ont pas de match il arrive avec tout. En plus, on a l'impression que c'est super organisé. Il y a le caméraman là qui est déguisé comme Goldust et machin. Et finalement, en fait, c'est juste pour massacrer Artruth et repartir 30 secondes après. Si c'est pour ça, continuez à laissez-les faire leur vignette dans leur coin et puis mettez-nous le match en pré-show. On n'a pas besoin de ça, quoi. Donc voilà. Sinon, il y avait pas beaucoup de trucs choquants. Si tu aurais pu mettre Bailey, mais je pense que c'est le moment pour Bailey de genre qu'ils aillent réfléchir à comment l'écrire et surtout qu'ils fassent pas la rumeur là qui tourne comme quoi il y aurait une intrigue sur le fait qu'elle est son premier petit copain tout ça dans
faut qu'ils oublient ça hein, qu'ils remettent ça dans un tiroir
donc,
et qu'on
voilà
en
non mais
on
franchement
plus jamais
écartez-la de la ceinture jusqu'à ce que vous ayez une bonne idée et voilà. Une bonne idée qui soit pas un truc débile ou qui la fasse pas passer pour une gamine de 8 ans s'il vous plaît
c'est ça s'il vous plaît voilà oublions cette histoire du premier baiser c'est une erreur sur toute la ligne. C'est à mon tour.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que je vais mettre en flop? Je vais mettre les connards de la NBA là, qui étaient venus raconter de la merde et faire des sorties de route là. C'était pas nécessaire, d'accord. Faut attirer un petit peu de public mainstream, mais
J'aurais pu mettre Josh Duhamel en flop.
Josh Duhamel, oui. Bon, Josh Duhamel, il était là pour vendre son truc.
Oh là là, mais le mec, il parle de Transformers pendant 3 minutes. Il y a un match, quoi. Ferme ta gueule.
Voilà. On se passe hein, de tout ça. Qu'est-ce qu'on avait en top Je vais le mettre à Nia Jax, qui a quand même fait une grosse performance ce soir. Elle est restée très longtemps dans le ring. Elle a tenu sa place et voilà, c'était crédible. On est content de voilà, on a beaucoup entendu dire qu'il y avait plus de plan pour Nia Jax, etc., etc. Je pense que c'est pas le cas. On voit qu'elle est toujours présente. Elle fait un gros main event là. Je pense qu'ils vont la garder en réserve pour que ce soit l'aspirante numéro 1 sur celle qui gagnera entre Bliss et Sasha Banks. Je suis content de voir qu'elle peut assurer le show, qu'elle peut assurer le spectacle. Et la note, ouais, on va mettre 3,5 aussi. Ça me paraît ce qu'il faut pour ce show qui était quand même plutôt cool dans l'ensemble, qui a bien fait avancer quelques histoires. Il y a eu quelques bons moments, notamment Lesnar qui se fait trangler par Joe.
Ouais.
Une bonne rivalité à l'ancienne. Où ça transpire, où ça fait mal. Voilà. Du bon boulot pour ce Raw du 26 juin. Voilà, les amis, on a fait le tour de la question. L'auto-promo, rapidement. Où est-ce qu'on est? On nous trouve sur YouTube, sur la chaîne des Cahiers du Catch. On nous trouve
Catch
sur iTunes.
CDC, ouais.
Catch-up CDC, ça c'est Facebook. Catch-up CDC, c'est Twitter aussi. Podcloud, n'oubliez pas Podcloud. Voilà, abonnez-vous, venez sur les Cahiers du Catch, venez sur le forum, inscrivez-vous, venez discuter. Mettez des pouces, commentez, hein, dites-nous ce que vous avez pensé de tout ça. Voilà, l'émission touche à sa fin. Hank, je te remercie beaucoup d'être venu et d'avoir rejoué les réalisateurs.
Eh bien, merci, j'espère une nouvelle fois que ma réalisation ne sera pas trop mauvaise et si vous n'entendez enfin si vous ne voyez qu'une image fixe avec de l'audio et bah c'est qu'elle était mauvaise mais mais voilà et je remercie une nouvelle fois nos éditeurs d'être là. N'hésitez pas à partager un peu plus le podcast tout simplement parce qu'on est pas loin de la barre des 200.
On y arrive
sur YouTube.
Ça patine, mais on va passer.
Pas 200 auditeurs, hein, parce qu'on fait des milliers de d'écoutes sur iTunes. Enfin, je veux dire, on est une brand mondiale. Hein, là, je suis à deux doigts d'appeler Triple H pour qu'on fasse un partenariat avec NXT. Mais donc voilà, continuez à à commenter, à nous liker, tout ça. Et surtout, passez une bonne semaine. Attention, pleine de catch. Non, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas.
Non, non, salut. on n'est pas synchrone. Allez, merci de nous avoir écoutés. Ciao, ciao. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.
À toutes.